Radio Okapi.
Le vaccin antipaludéen entre dans la vaccination de routine des enfants de la RDC. Le lancement officiel a eu lieu ce jeudi en Banzangungu au Congo central, l'une des provinces congolaises les plus touchées par cette maladie. L'examen et l'adoption du projet de loi des finances pour l'exercice 2025 commence ce jeudi à l'Assemblée nationale. Dans un premier temps, l'Assemblée nationale va auditionner cet après-midi la première ministre Judith Suminois qui va présenter l'économie du budget 2025 et qui sera suivie du débat général. L'invité de ce journal, c'est la directrice humanitaire pays de l'ONG Save the Children International, SCI. Madame Oana Mihai va parler du projet Tumaini, espoir en français, et qui cible plus d'un million de personnes vulnérables dans l'est de la RDC. Bonjour à tous. Une caravane motorisée pour mettre en lumière le lancement officiel de l'introduction du vaccin antipaludique dans le carnet de vaccination des enfants à RDC a été organisée ce jeudi en Banzangungu au Congo central. L'objectif de cette campagne est de sensibiliser les communautés et de s'assurer que le vaccin atteigne le plus grand nombre d'enfants possible en vue de contribuer à la réduction des taux de morbidité et de mortalité liés au paludisme. D'après le coordonnateur du programme national de lutte contre le paludisme, le choix de Congo central pour lancer la vaccination contre cette maladie s'explique par le fait qu'il s'agit de l'une des provinces les plus touchées par la malaria. Docteur Nono Koka est au micro de Nana Plurich Mambou.
Le Congo central, c'est parmi les provinces avec le nombre élevé de cas, mais aussi avec impact élevé, autrement appelé HBHI. Et donc, c'est parmi les 10 provinces de la RDC avec des cas élevés, avec impact élevé. Et vous allez comprendre que le Congo central, on a eu beaucoup de décès dits au paludisme, mais ça représente à travers le pays près de 9%. Et donc, c'est énorme sur les 26 provinces. En dehors de ces mortalités, mobilité élevée, il y a aussi d'autres raisons. Le Congo central est tenté d'implémenter plusieurs interventions. Il faut dire que le Congo central a distribué la moustiquaire en décembre 2023, des nouvelles moustiquaires avec des insecticides qu'on appelle les PBO et les IGD. Ce sont des insecticides de deuxième génération. En dehors de ça, nous avons d'autres interventions telles que la chimio-prévention du paludisme pérenne chez les nourrissons. Ce sont des interventions qu'on est tenté d'implémenter. Et nous voulons voir dans l'arsenal de tous ces interventions de prévention, essayer de mettre ça tous ensemble pour que nous puissions arriver à réduire ou au finish éliminer le paludisme au Congo central.
Santé encore. Ce jeudi 31 octobre marque la fin des activités liées à Octobre Rose, activité consacrée à la sensibilisation de la communauté mondiale sur le cancer du sein. Ici au pays, dans le Haut-Katanga notamment, plusieurs structures de lutte contre cette maladie ont organisé des séances de sensibilisation à divers endroits à travers la ville de Lubumbashi. Certains hôpitaux ont eu durant ce mois à ouvrir leurs portes pour un dépistage gratuit. Une femme de 40 ans qui était atteinte du cancer de sein au stade débutant et qui a été soignée avec succès, rend ici témoignage et appelle les autres femmes à se faire dépister à temps pour une bonne prise en charge. Cette dame qui a requis l'anonymat a été jointe par Jean Gandou.
J'avais des douleurs atroces au niveau de mon sein droit. J'avais constaté que j'avais une boule dans mon sein et qu'il ne cessait de prendre du volume et était trop dur. Je me suis rendu à l'hôpital où j'ai été pris en charge par un médecin qui m'a recommandé une pile d'examens à faire. C'est entre autres l'échographie, l'anapath, la mammographie et la microbiopsie mammaire pour que l'on sache ce qui en était. Heureusement que la maladie a été détectée. Il m'a été recommandé la chirurgie et j'ai été opéré. Et depuis, je me porte très bien et tout va bien. Je peux simplement dire aux femmes qui souffrent et qui constatent qu'elles ont des douleurs au niveau des seins qu'elles se fassent vite dépister car plus c'est fait tôt, plus ça peut se soigner. Moi, j'ai eu la chance de me faire dépister à temps sans attendre. Cette masse peut être soignée. Ainsi, je demande à ces femmes de faire vite et elles auront des solutions.
Pour que Baba consulte n'a pas des solutions bien avant.
Et dans le Maniema, à l'occasion de la fin de cette opération Octobre Rose, dans l'amphithéâtre Mapan de l'université de Kindu, le personnel féminin de cette université et d'autres acteurs ont été sensibilisés sur cette question au cours d'une conférence débat ce jeudi. Un reportage de Florence Kizalunga.
Dans son exposé, la gynécologue obstétricienne Dr. Olive Mbambula a montré que les cancers des seins existent bel et bien dans la communauté.
Les cancers des seins existent. Les femmes doivent chercher à faire le dépistage tôt. Plus le dépistage se fait précocement, la prise en charge est précoce aussi. Et la prise en charge sera précoce, ainsi le pronostic sera bon.
Pour les participants, cette occasion leur a permis de prendre connaissance du cancer des seins. Sylvie Kaloumé.
Cette occasion nous a permis de prendre connaissance de l'existence du cancer des seins. Parmi les femmes qui ont pris part, nous en avons trouvé celles qui n'en avaient jamais entendu parler de cette maladie et de tous les risques que celle-ci représente. À travers cette conférence, nous venons de prendre connaissance des facteurs et des initiatives à prendre pour parvenir à prévenir cette maladie.
Le recteur de l'Université de Kindu donne les motivations de cette activité. Professeur Dokasas Kimenya.
Étant donné que c'est une calamité naturelle maintenant, qui décime des populations, c'est aussi une cause réelle de mortalité aujourd'hui. Voilà pourquoi l'université, en tant qu'une structure de recherche, a trouvé qu'il était nécessaire qu'on organise une conférence exploitant cette thématique-là.
Kindu, Florence Kizalunga, Radio Kapi.
En plus bref, le président Tshisekedi se trouve à Bujumbura au Burundi depuis hier soir pour prendre part au 23e sommet des chefs d'État et de gouvernement du marché commun de l'Afrique orientale et australe COMESA, sommet qui s'ouvre ce jeudi 31 octobre. La réunion de Bujumbura accorde une attention particulière à l'accélération de l'intégration régionale à travers le développement des chaînes de valeur dans l'agriculture, l'exploitation minière et le tourisme, résilient au changement climatique. Plusieurs chefs d'État et de gouvernement, des représentants du secteur privé, des petits commerçants, des décideurs politiques et de la société civile participent à ce sommet. Début ce jeudi de l'examen et adoption du budget de loi des finances pour l'exercice 2025. Après examen et adoption de la loi portant reddition des comptes pour l'exercice 2023, l'Assemblée nationale auditionne tout à l'heure à partir des 13h heure de Kinshasa la première ministre Judith Suminwa qui va présenter l'économie du budget 2025 avant d'ouvrir le débat général. À travers l'examen de ce budget, l'Assemblée nationale devra tirer des leçons des dépassements budgétaires graves et des détournements des fonds constatés au moment de l'examen de la reddition des comptes 2023. Le président de l'Assemblée nationale revient sur ses actes de mauvaise gouvernance. Vital Kamere est au micro de Michel Kifindangoy.
En ce qui concerne la reddition des comptes, nous avons découvert ici à l'Assemblée nationale des dépassements budgétaires incroyables. Ceci se concentre dans quelques secteurs, pendant que d'autres secteurs ne reçoivent absolument rien. Il y a des imputations mensongères de transferts de fonds aux provinces et aux ETD que les provinces n'ont jamais vues. Nous avons aussi noté des dépenses en urgence qui ont dépassé le 51%. Quand vous dites que pour les PDL 145 territoires, c'est 88 milliards seulement, soit 6%, au moment où la dette non certifiée représente 450 milliards, on se demande où se trouve la priorité finalement de l'État congolais. Et on se pose la question, c'est d'être pour avoir livré quoi? Par exemple, les dépenses de 100% d'investissement sont de 85% pour les études. Quelles études alors que tous les ministères, y compris même l'Assemblée nationale et le Sénat, nous avons des bureaux d'études, direction d'études.
Toujours à l'Assemblée nationale, une proposition de loi visant à garantir l'accès à l'information et la transparence de la vie publique en République démocratique du Congo a été déposée hier. Son auteur, le professeur Jacques Joly, rapporteur de la Chambre basse du Parlement, fonde sa démarche sur l'article 100 de la Constitution ainsi que sur les articles 151 et 153 alinéa 3 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Composé des 75 articles, ce texte a pour but de mettre en œuvre l'article 24 de la Constitution qui consacre le droit à l'information ainsi que la liberté de la presse. Cet article stipule que toute personne a droit à l'information et assure la liberté de diffusion par divers moyens de communication tout en respectant l'ordre public et les droits d'autrui. La RDC et le Royaume du Maroc ont signé hier mercredi un protocole d'accord de coopération judiciaire entre leurs juridictions constitutionnelles. C'était en marge des travaux en cours au Zimbabwe du 7e congrès de la Conférence des juridictions constitutionnelles africaines. Selon le président de la Cour constitutionnelle du Maroc, Mohamed Amin, ce protocole d'accord favorisera l'échange d'informations à travers la jurisprudence entre les deux hautes juridictions sur des matières communes traitées en RDC et au Maroc. Un autre volet de cet accord concerne le partage d'expériences avec des formations. Pour Dieudonné Kamuleta, président de la Cour constitutionnelle congolaise, c'est une première dans l'histoire de cette haute juridiction qui entend créer une dynamique de rayonnement par son ouverture sur le continent. Il a noté l'importance de renforcer ce type de partenariat pour l'évolution et l'adaptation des pratiques judiciaires face aux défis contemporains. Le congrès de la conférence qui se tient au Zimbabwe constitue un moment fort des échanges visant à renforcer l'état de droit et à consolider les institutions judiciaires sur le continent africain. Retour au Congo central pour parler de l'ONG Initiative pour le développement local, IDEL, qui appelle l'État congolais à privilégier les investissements dans d'autres secteurs tels que le tourisme et l'agriculture en lieu et place des hydrocarbures. L'ONG IDEL, basée à Boma et qui milite en effet pour la protection de l'environnement, l'a souligné à l'issue d'un point de presse organisé dans le cadre du lancement de la campagne dénommée « Notre terre sans pétrole ». Le coordonnateur de l'IDEL estime que l'exploitation pétrolière a plus d'incidences négatives que des avantages sur le quotidien des communautés et sur l'environnement. Le point avec Nana Plurich-Mambou.
Cette campagne dénommée « Notre terre sans pétrole » est un appel lancé par l'ONG Initiative pour le développement local pour protéger les terres et les écosystèmes précieux de la RDC contre l'exploitation pétrolière et gazière. D'après l'IDEL, au Congo central, particulièrement en territoire de Mwanda où plusieurs entreprises exploitent, il se pose plusieurs problèmes, notamment celui des confiscations des terres, ce qui engendre une réduction de la production agricole et la baisse des revenus. Apollinaire Nsokangimbi est le président du conseil d'administration de cette organisation.
Nous ne gagnons presque rien dans l'exploitation pétrolière. Mais en conséquence, ça tue le moyen de subsistance des communautés. On a constaté que les communautés deviennent de plus en plus pauvres. Et ils sont devenus de plus en plus malades. Nous allons conseiller l'État d'aller dans les priorités du chef de l'État, spécialement la priorité relative à la diversification de l'économie. Privilégier les secteurs à forte intensité sociale.
La campagne dénommée « Notre terre sans pétrole » va être menée à travers différentes activités telles que les matinées de plaidoyer, les marches, les caravanes motorisées, ainsi que des ateliers de sensibilisation pendant environ 3 mois. Matadi, Nana Plurich-Mambou, Radio Okapi.
Dans la province du Tanganyika, manifestation hier des habitants de Kabimba, chef-lieu du territoire de Kalemie. D'après la société civile locale qui a organisé la manifestation, l'objectif est de dénoncer la société GLC qui produit les ciments dans ce territoire mais ne contribue pas au projet de développement des communautés locales. Des témoins signalent que plusieurs manifestants se sont présentés devant l'entrée principale de la société GLC pour exprimer leur mécontentement. La police a dû tirer en l'air pour les disperser. Paul Amunanga.
Le coordonnateur de la société civile Force Vive du territoire de Kalemie souligne qu'en 2023, la société GLC avait refusé de signer un protocole d'accord avec la communauté locale pour contribuer au projet de développement communautaire. En revanche, les coordonnateurs de la société civile précisent qu'ils ont élaboré un calendrier avec GLC pour exécuter certains projets de développement au bénéfice de la communauté locale. Mais il souligne que la société GLC n'a pas respecté ses engagements. Kisika Lumumba.
Vu le refus de signer le protocole d'accord, vu le non-respect du calendrier d'application de tous les avantages relatifs, tels que adduction de l'eau potable prévue en novembre 2023, installation de courant dans la cité de Kabimba prévue en mars 2024, asphalter les routes principales de Kabimba prévues en juillet 2024, favoriser l'épanouissement des activités artisanales, des pêches, élevage, agriculture prévues en janvier 2024, nous nous sommes décidés de faire une manifestation.
Radio Okapi n'a pas pu joindre les responsables de la société GLC. Signalons que la société civile du territoire de Kalemie a remis à l'administrateur du territoire un mémorandum exprimant les préoccupations de la communauté. Kalemie, Polemunanga, Radio Okapi.
Actualité internationale.
L'Espagne décrète 3 jours de deuil national à partir de ce jeudi à la suite des inondations catastrophiques dans le pays. Ce sont les pires inondations depuis les années 80, selon l'agence France-Presse. Le dernier bilan fait état de près de 100 morts et de nombreux disparus dans la région des Valences, principalement la plus touchée.
L'invité.
L'invité de ce journal, c'est la directrice humanitaire pays de l'ONG Save the Children International, SCI, Madame Oana Mihai, va parler du projet Tumaini, espoir en français, et qui cible plus d'un million de personnes vulnérables dans l'est de la RDC. Elle s'entretient avec Bernard Danyangi.
Madame Oana, bonjour.
Bonjour, monsieur.
Vous parlez de projets que vous exécutez en consortium, notamment en faveur de plus de 350 000 personnes déplacées dans les provinces de l'Ituri, Nord Kivu et Sud Kivu. Est-ce que c'est un projet qui commence ou bien c'est une suite?
Effectivement, aujourd'hui, on avait le lancement de ce projet financé par le Bureau des affaires humanitaires des États-Unis d'Amérique. Le projet s'appelle Tumaini, espoir en Swahili. Et c'est un projet qui est mis en œuvre par donc Save the Children, mais notamment avec ses partenaires MEDER, AMC et CARE International, et aussi en partenariat avec 8 ONG locales et nationales congolaises. C'est un projet qui est très ambitieux, en fait, qui vise en fait à soutenir environ 1,2 million de personnes, pour la plupart des déplacés, des personnes vulnérables. Le projet en fait aura un focus surtout sur les groupes tels que les femmes, les enfants et les personnes vivant avec un handicap. Comme vous l'avez mentionné aussi, Nord Kivu, Sud Kivu, Ituri, où les besoins humanitaires et les indicateurs aussi de la crise humanitaire sont les plus sévères en RDC.
Là, vous avez parlé d'environ 1,2 million de personnes.
Oui, donc en fait, c'est un projet qui sera mis en œuvre sur 2 ans. Quand on parle de déplacés et des personnes vulnérables, ce sont les personnes qui vivent directement donc, dans des camps de déplacés. Mais comme vous le savez, il y a une grande partie des déplacés aussi internes en RDC qui vivent dans les familles d'accueil. Donc pour nous, l'appui qu'on aura, notamment à des structures de santé, à des structures de protection, c'est un appui qui visera en fait à soutenir la population, mais notamment la population déplacée, qu'elles vivent en fait en famille d'accueil ou qu'elles vivent en camp de déplacés.
Et là, ce sera donc les médicaments, la nourriture et quoi encore?
Le projet a 4 volets basés sur les analyses et l'évaluation, notamment des évaluations multisectorielles, des besoins donc des populations vulnérables et des populations déplacées. Il y a un premier secteur qui est un secteur notamment couvert par rapport à la question de la nutrition infantile et maternelle. Il y a un secteur sur les questions de santé, notamment à travers l'appui aux divisions provinciales de la santé, mais via les centres de santé, les structures sanitaires, les hôpitaux généraux. Il y a aussi un secteur qui visera en fait à soutenir des activités de eau, hygiène et assainissement, notamment que ce soit dans les structures de santé, mais aussi dans certains camps de déplacement. Puis finalement, il y a un secteur qui couvre tout ce qui est la protection donc contre les violences basées sur le genre et les violences sexuelles, mais aussi la protection de l'enfance. Donc ces 4 secteurs sont des secteurs qui sont où chacune de nos organisations internationales a le lead, mais nous travaillons en consortium, donc c'est-à-dire qu'on essaye de travailler en puzzle, donc que nos activités en fait se complètent et se complémentent. Donc les secteurs, par exemple, si vous prenez la santé et la nutrition, ont beaucoup d'activités qui communiquent les unes avec les autres, parce que par exemple, vous ne pouvez pas avoir la santé maternelle et de l'enfant sans passer par une bonne nutrition des enfants.
Alors pour Nord Kivu, par exemple, vous ciblez où? Est-ce que c'est la ville de Goma ou bien Lubero? Pour l'Ituri, vous ciblez où?
Le projet, en fait, en soi, même si c'est un projet qui est sur 2 ans, en fait, c'est un projet d'aide humanitaire et d'assistance humanitaire. Et le projet, en fait, se veut flexible en soi. Cette flexibilité, donc, qui nous est permise aussi, comme je disais, par le financement de USAID, nous permet aussi, en fait, de réajuster nos zones d'intervention selon les besoins. Vous savez que les déplacés, surtout ces derniers 18 mois, il y a eu des mouvements pendulaire, mais il y a eu aussi des déplacements dans des nouvelles zones. Donc nos activités suivent un peu les déplacés, mais nous travaillons en fait en complémentarité. Pour l'instant, on a des zones qui ont été identifiées dans le Nord Kivu, le Sud Kivu et l'Ituri, donc basées sur le nombre de déplacés officiels. Et, par exemple, pour le Nord Kivu, actuellement, on parle de la zone de Nyiragongo, il y a aussi des acteurs en Kiroche, dans Masisi, dans Rutshuru. Pour le Sud Kivu, on parle surtout de la zone de Minova, qui est une zone qui a reçu plus de 300 000 déplacés internes dans les derniers mois. Mais comme je disais, vraiment, le projet est très flexible en soi. Donc, on suit, en fait, les besoins selon la sévérité des indicateurs des besoins humanitaires.
Si le lancement, c'est aujourd'hui, nous sommes déjà fin octobre. Donc, à partir déjà de début novembre, vous êtes sur le terrain.
Votre projet, en fait, a commencé au mois de juillet. Mais il s'est agi, en fait, d'avoir soit une continuation pour les organisations qui étaient déjà présentes dans les zones concernées par le projet, ou bien de relancer certaines activités dans des zones où malheureusement on n'avait plus des financements en suffisance pour pouvoir intervenir.
Madame, merci.
Merci à vous.
Et c'est la fin de ce journal, la grande édition en langue française de la mi-journée sur Radio Okapi, un journal mis en onde par Debs Vita, coordonné par Blaise Chindani, sous la supervision de Martin Sebujangwe. À la présentation, c'était Noëlla Luzitu Kabambi. Place à présent au journal de sport avec Kanish Mukongo.